Bonjour, ici Jan Steele, alias La Goose. En direct depuis le Parc national des Cévennes, je suis là pour vous persuader que bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Gérante d'une cuisine pédagogique et d'une chambre d'hôte 100% sans gluten dans le Parc national des Cévennes, je suis aussi malade cœliaque depuis toute ma vie et maman de deux enfants qui, eux aussi, mangent sans gluten. La communauté des personnes vivant sans gluten est en croissance permanente. Mon objectif est d'offrir à ces gens des pistes vers une vie meilleure sans gluten. Allons-y!
Bon ben, nous voici à Marseille lors d'une journée bien pluvieuse. Nous sommes aujourd'hui au 33 rue de la Morelle, dans le 13e arrondissement de Marseille, dans le salon de thé C de famille. Je suis avec Edwige Dominique. Bonjour Edwige.
Bonjour Diane.
Merci pour l'accueil. Alors, dites-moi tout, vous êtes là depuis un petit moment.
Alors oui, on est là ici sur cette adresse depuis plus de 3 ans et mon salon de thé en fait existe depuis quelques années déjà.
Trop bien. Et donc vous êtes un petit peu en mouvement car les pâtisseries de Lily, qui est l'enseigne de votre fille Lily, va maintenant former une seule entité avec votre salon de thé, C de famille. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, tout à fait. En fait, donc, nous sommes venus donc, à cette adresse il y a 3 ans de ça, avant le Covid. Et donc, Lily, donc, qui est pâtissière, avait créé sa propre entreprise. Et sur le même lieu, on le partageait avec moi, qui est le salon de thé. Mais là, à l'heure actuelle, on a décidé de ne former qu'une seule entreprise à toutes les deux. Et donc, du coup, ça restera le salon de thé et les pâtisseries de Lily resteront une seule entité. Donc, restera avec le nom de C de famille.
Ouais, super. Et donc, les gens pourront continuer à venir s'approvisionner avec vos bons petits desserts, vos bons produits.
Oui, oui, oui. Il n'y a rien qui va changer. Hein. C'est juste le nom. Hein. C'est juste, ça va rester C de famille. Hein. C'est un choix qu'on a fait à toutes les deux. Mais voilà, ça restera, tout restera pareil. Sauf que voilà, c'est le salon de thé C de famille, sans gluten et sans lactose garantie.
Voilà, super. Et donc, expliquez-moi ce choix. Qu'est-ce qui t'a fait basculer vers le sans gluten, sans laitage?
Alors, tout simplement parce que je suis cœliaque depuis plus de 30 ans. Et donc, il y a 30 ans de ça, en France, c'était horrible, on ne trouvait rien. Mais vraiment, rien du tout pour pouvoir s'alimenter, se faire plaisir, hein, parce que le plaisir, en dehors des repas, ça passe aussi sur un petit gâteau, une viennoiserie ou un pain. Et c'est vrai que j'étais particulièrement frustrée. Ouais. Et donc, j'ai la chance d'avoir deux de mes enfants qui sont en restauration. Donc, ça a commencé avec mon fils, qui lui a commencé à essayer de faire des petites choses sans gluten pour pouvoir me les adapter. Mais celle qui s'est mise en quatre, ça a été ma fille en pâtisserie. Et donc, pendant ses cours, elle revenait à la maison et à chaque fois, elle essayait de transformer toutes ces recettes acquises en cours pour pouvoir les transformer pour moi sans gluten et sans lactose.
Et on voit bien que tout est possible.
Tout est possible. Et puis alors, de ce coup, j'ai pris des kilos hein, parce que j'ai mangé plein de bonnes choses. Des choses, par exemple, un Paris-Brest, je n'en avais jamais mangé. Elle m'a fait des tas de pâtisseries que je connaissais
pas.
Ouais,
c'est une culture qu'on découvre. En fait, moi, je suis malade cœliaque depuis mes 3 ans. Donc, je n'avais jamais mangé toutes ces choses-là. Et c'était à partir du moment qu'il y avait une première pâtisserie sans gluten à Vancouver où je suis allée. Et c'était un peu surréal, quoi, d'entrer dans ce lieu et d'entendre la dame derrière la vitrine dire que je pouvais tout manger, mais de n'avoir aucune culture de ces choses, des religieuses, des éclairs, des je ne sais quoi.
Exactement. Moi, quand t'as préparé quelque chose, j'ai dit, mais t'es sûre, je peux le manger? Il n'y a pas de gluten? Non, maman, il n'y a pas de gluten. Et donc, voilà, et on a commencé comme ça, toutes les deux. Puis après, on a fait les biscuits sans gluten. Et on a adapté au fur et à mesure plein de choses.
Ouais, et puis on réalise qu'en vrai, bien manger sans gluten, on n'a pas besoin non plus de 36 000 recettes.
Exactement.
Il suffit d'une ou deux ou trois bonnes recettes, aller un pain, une pâte brisée, une pâte à choux. Et ça nous permet, ça nous ouvre la porte vers une grande variété de bons desserts, sans que ce soit la mer à boire non plus au niveau de l'investissement du temps et de l'énergie.
Exactement.
Ouais, c'est super. Oui, donc les gens qui viennent au salon, ce sont principalement des gens qui ont une sensibilité au gluten ou vous servez de café du coin comme n'importe quel autre café aussi
Alors, le salon de thé a aussi la particularité d'être une boutique. D'accord. Parce que je ne fais pas que ça. Donc, dans ma boutique, donc, je suis aussi créatrice. Donc, et en fait, dans ma boutique, je vends aussi de la laine. Je suis créatrice de modèles de tricot. Donc, les gens viennent d'une part pour le sans gluten, mais ça, c'est vraiment essentiellement pour ça, hein, pour venir. Mmh. Mais ensuite, j'ai une grosse clientèle de femmes, donc qui se retrouvent sur un lieu qui est complètement féminin, où elles peuvent s'asseoir pour pouvoir manger des choses, selon elles, un petit peu plus saines, hein, parce que c'est sans gluten et sans lactose, donc elles sont contentes de ça.
C'est pas faux.
Voilà. Et en même temps, de passer un petit moment à tricoter, à papoter, ou tout simplement regarder tout ce qu'il y a dans ma boutique,
donc,
acheter.
Donc un lieu de convivialité.
Exactement. Ouais. Donc on me dit que ma boutique s'appelle C'est de famille, mais que quand on adhère, on fait partie de la famille.
Hein. Oui.
Voilà. Donc ils reviennent, ils me disent, parce que si on se sent chez nous, on est dans la famille.
Hein. Oui, et puis c'est agréable ces activités où l'on peut prendre son temps, on se sent pas pressé, on se sent pas bousculé vers la porte une fois qu'on a bu son thé.
Voilà, ouais, oui.
Ouais, exactement. C'est excellent. Donc vous fondez une communauté en fait.
Exactement, exactement.
Ouais, et puis je pense que de nos jours, on a besoin aussi dans nos entreprises, dans nos activités comme ça, de jumeler tout ce qui nous passionne.
Oui.
Et donc, c'est une bonne idée que d'avoir, enfin, je vois devant moi les étagères pleines de couleurs, pleines de belles. Boule de laine, ça donne très envie. Enfin, même moi qui serais venue pour les pâtisseries, je peux imaginer que les gens qui viennent pour les produits sans gluten puissent aussi s'ouvrir tout d'un coup à votre activité
exactement,
de créatrice.
Exactement, parce qu'on peut être sans gluten, mais être aussi fan du tricot et tricoter. Oui, oui, non, tout à fait, tout
et
à
donc,
fait.
Donc, l'un peut servir de porte vers l'autre. Ouais. Non, c'est chouette.
Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « Sans gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée. Un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site web de la Gousse.
Et donc, toi, Edwige, tu es cœliaque depuis très longtemps.
Oui, à l'âge de 25 ans, on a découvert ma maladie cœliaque.
Ici, en France.
Oui, je suis de Marseille. En fait, à ma première grossesse, j'ai eu une grossesse qui s'est très, très bien passée jusqu'au deuxième trimestre. Et mon deuxième trimestre de grossesse a commencé à être un peu compliqué. J'ai accouché à 8 mois et suite à mon accouchement, j'ai été très malade, vraiment très très malade. Et 3 mois après, je me suis retrouvée en réanimation, en train de mourir. Mais vraiment, quand je suis arrivée en réanimation, on m'a dit « j'ai 48 heures pour te sauver, on ne sait pas ce que tu as ». Donc bien évidemment, on pensait que ça venait de mes intestins. Et la première des choses, ils ont essayé de vite voir si je n'avais pas un cancer du côlon en phase terminale. Quand ils ont éliminé ça, puisque ce n'était pas du tout ça, ils ont de suite pensé à une malabsorption intestinale. Et donc, on a découvert rapidement que j'étais cœliaque.
D'accord.
Donc, j'ai passé un mois à l'hôpital.
Ah, ouais,
donc, en réanimation, avec donc, une voie centrale pour pouvoir m'alimenter directement, parce qu'on a mis mon tube digestif pendant 21 jours au repos complètement, sous oxygène.
Ah, ouais.
Et petit à petit, j'ai remonté la pente.
Wow.
Donc, voilà. Après, je suis
sortie de l'hôpital. Tout en ayant un nouveau-né.
Oui, 3 mois, elle avait ma fille.
Ouais. Wow.
Compliqué. Donc, voilà.
Mais en tout cas, il n'y a pas eu le 10 ans d'errance médicale. Bon, chacun son parcours du combattant. Mais
voilà,
parce qu'aujourd'hui, souvent, les gens, ils ont 5 à 10 ans d'errance médicale.
Non, alors après, moi, j'ai un parcours particulier parce que depuis que je suis jeune, enfant, je suis anémiée, chute de tension. un faible poids, j'avais eu un retard de croissance pendant que j'étais petite. Bon, alors c'est sûr que j'ai 55 ans, donc il y a...
Ouais, ben du coup, ça fait nous demander si vous étiez, si tu n'étais pas cœliaque bien avant qu'on le décèle.
Voilà, en fait, ce que m'ont dit...
Avec ou sans symptômes.
Voilà, en fait, ce que m'a dit le gastro qui, effectivement, qui a diagnostiqué, c'est qu'il était fort possible que ma maladie cœliaque soit en état de latence, pas réellement révélée, mais que ma grossesse, comme c'est souvent un chamboulement dans le corps...
Les hormones.
Voilà, hein, a mis en... On va dire, ma maladie cœliaque s'est déclenchée à ce moment-là. Et d'ailleurs, ils l'ont vu parce qu'ils ont demandé tout mon dossier de maternité et ils se sont bien rendus compte que dès le sixième mois de grossesse, par rapport à mes analyses, c'est là que le chamboulement a fait qu'effectivement, ma maladie s'est réveillée.
D'accord.
Donc voilà. Mais effectivement, moi, ma vie, elle est, je veux dire, du fer, des piqûres de fer. J'ai eu les chutes de tension. Voilà. Ça a vraiment été mon parcours.
Et depuis ton diagnostic, c'est toujours le cas
Pas du tout. Pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Pas du tout. Je veux dire, ma vie, j'ai une deuxième vie depuis que je mange sans gluten.
Ouais, c'est ça.
Parce que déjà, j'ai pris du poids. Je ne sais plus ce que c'est que d'être anémiée. Les chutes de tension, j'ai une vie... effectivement,
c'est une chance, en fait.
Voilà, j'ai une vie, je fais plein de choses, alors qu'avant, ben, mon mot, c'était « je suis fatiguée, j'ai envie de rien ». Ma hantise à l'école, c'était le sport, parce que j'avais peur de tomber dans les pommes, parce que j'étais tout le temps fatiguée, essoufflée. À l'heure actuelle, voilà, je fais de la course à pied, je marche, je fais de la danse, voilà, je fais plein de choses. Et heureusement, et c'est pour ça que quand j'entends les gens dire « ah, mais moi, je fais des écarts », mais je dis « mais jamais je ferai des écarts, je ne vais pas mettre ma vie en danger ». D'abord, j'ai trop eu peur de mourir, d'une part, et de deux, ma nouvelle vie avec un régime sans gluten.
On a tout d'un coup une pêche.
Exactement, exactement. On ne peut pas m'arrêter. D'ailleurs, je fais plein de choses et voilà, et j'en suis ravie. Je sais que c'est grâce au fait que je suive bien mon régime sans gluten.
Moi, je dis souvent que c'est peut-être mon super pouvoir parce que ça m'oblige à m'occuper mieux de moi que ce que je vois autour de moi. Les gens qui n'ont pas ces problèmes, entre guillemets, ben, ils peuvent se permettre d'abuser de leur corps beaucoup plus que ce que j'aurais envie de faire.
Ouais.
On apprécie différemment le bien-être.
Exactement, exactement.
Et donc, dans la famille, il y a d'autres cœliaques chez vous ?
Mon fils.
D'accord.
Mon fils est cœliaque aussi, mais il est cuistot.
Ah.
Voilà, il est cuistot, mais voilà, mon fils est cœliaque et ma fille, donc Lily, celle qui est pâtissière, alors elle est sous haute surveillance parce que à chaque fois qu'on lui fait tous ses bilans, donc tous ses bilans reviennent négatifs pour la maladie cœliaque, mais selon les gastro, il semblerait qu'elle ait une petite prédisposition. Donc on la surveille parce qu'on se dit que peut-être si ça fait comme moi, qu'à un moment donné, elle a un déclenchement qui fait qu'elle devient cœliaque, donc voilà, elle est sous surveillance. Bon,
de toute façon, elle est déjà équipée côté cuisine.
Oui, il n'y a pas de problème.
Même pas une tension pour elle.
Voilà, pour elle, il n'y a pas de problème. Elle le sait. De toute façon, tous les enfants, ils ont été éduqués avec
Et donc, ça. Ton fils qui est cuistot, il a eu du mal à devenir...
Cuistot ?
Ouais.
Ah, ça a été un parcours du combattant. Hein.
Ouais.
Un parcours du combattant. Il est rentré au lycée hôtelier en suivi de scolarité avec un PAI. Sauf qu'au bout d'un mois, le lycée hôtelier nous a convoqués en disant « ne prends pas d'enfants qui sont allergiques, intolérants ». Les cuistots ne doivent pas être intolérants ou allergiques. Donc, du coup, on s'est battu.
Mais c'est curieux. Ils savent très bien que dans la restauration, dans la petite et grande restauration, on est dans l'obligation de pouvoir servir quand même tout client.
Mais eux ne voulaient pas prendre de risques.
C'était une histoire de responsabilité pour eux.
Exactement. Et donc, de là, ils nous ont dit au départ qu'il fallait qu'ils changent de voie. Et lui, c'était pas possible. Il voulait être cuistot. Donc, on a dit non, on a fourni certificat médical par le médecin traitant, qu'ils m'ont refusé parce que c'était soi-disant de la complaisance. Donc, on a été à l'hôpital voir son gastro, qui nous a fait un certificat médical. Et donc, grâce à ce certificat médical, il a pu poursuivre ses études. Donc,
de toute façon, il n'était pas malade.
Non.
Il savait bien gérer la contamination croisée.
Exactement, exactement. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini l'année avec le certificat médical. Et arrivé à la rentrée suivante, je n'ai pas fait de PAI. J'ai comme ça terminé, tu continueras à te gérer.
Ouais.
Il s'est géré, il a poursuivi ses études. Et la médecin scolaire est venue me voir en me disant oh, « je suis trop contente parce que votre fils est guéri ».
Donc,
ça. Il comprenait absolument rien. Donc, nous, on s'en foutait, mais l'histoire, c'était... Et le gastro a encouragé Joris à poursuivre ses études en disant « Il faut des cuistots qui soient cœliaques pour que tu puisses, après, aider d'autres personnes quand ils vont venir dans un restaurant pour pouvoir, effectivement... »
C'est carrément de la discrimination.
Exactement.
C'est incroyable, quand même.
Exactement. Donc, voilà. Mais maintenant, il est cuistot.
Ouais,
et donc, quand on lui dit ben, qu'il y a quelqu'un qui est intolérant au gluten, et ben, il sait gérer, il sait ne
bien
pas
servir. Bien sûr, et,
ne
et pas les servir. Clients sont on ne peut plus contents quand Exactement. On a un cuistot qui comprend et qui peut... Moi, quand j'étais à l'école de cuisine et quand je gérais le resto... C'était moi, évidemment. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un de sensible dans le resto, on disait « Jeanne, vas-y, c'est toi qui comprends. » Et ils étaient on ne peut plus contents Exactement. De me voir arriver avec les blancs et tout et dire « Bon, il y a quelqu'un qui est allergique à quelque chose, expliquez-moi tout. » Et oh, qu'est-ce que ça met en
Exactement.
Confiance.
Et oui.
Et puis, c'est les clients qui savent ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Oui. Donc, il suffit d'avoir une conversation franche pour
Exactement.
Dire qu'est-ce qui vous fera plaisir. Moi, je connais le menu, mais je ne connais pas vos sensibilités. Alors, parlons-en. Mm,
tout à fait.
Donc, je ne sais pas trop pourquoi on a autant peur. Ouais, non, c'est très curieux. Il y a du chemin à faire là-dessus, c'est
Exactement.
Sûr.
Exactement.
J'ai une autre cliente qui... est plus âgée et qui souhaite aller dans une résidence pour personnes âgées.
Oui.
Et elle aussi, à ce moment-là, elle a demandé, et là, il n'y a pas question de PAI ni rien, enfin, je veux dire, ce n'est pas une collectivité gérée de la même manière, ce sont des endroits privés. Et donc, elle s'est fait refuser, en fait, une place, et elle s'inquiète, elle est cœliaque, et elle dit, j'ai 80 ans, j'ai la chance, j'ai toute ma tête, mais bientôt, ce ne sera peut-être pas le cas. Et je ferai
grave.
Comment Je
ah
ferai
ouais.
comment J'aurai nulle part parce qu'ils me refusent ma place. Pourquoi Parce qu'ils disent pas vouloir subvenir à mes besoins.
C'est grave.
C'est un problème à résoudre. Bon, ben alors, donc, quelles sont les heures d'ouverture du salon de thé, du coup
Alors, je suis ouverte. Pas beaucoup de jours dans la semaine. J'ai ouvert le lundi après-midi de 14h30 à 18h.
D'accord.
Le vendredi, pareil, de 14h30 à 18h. Et le samedi, de 13h à 18h.
D'accord.
Aussi. Voilà.
D'accord.
Parce que, en fait, j'ai deux activités professionnelles. J'ai un autre boulot à côté.
D'accord.
Et le salon, voilà, il est hors de question que je laisse tomber pour mes personnes cœliaques qui viennent.
Ouais.
Et donc, voilà. Et puis, pour moi aussi. Donc, j'ai deux activités. C'est pour ça que je suis ouvert que 3 jours dans la semaine.
Oui, mais c'est super. Et puis, les gens qui travaillent, ben, ils ne sont peut-être pas forcément dispo non plus.
Oui, voilà. Non. Et puis, ça marche bien comme ça. Les gens le savent. Oui,
déjà,
viennent.
Le vendredi soir, le samedi, ça
voilà,
donne
vendredi, samedi, oui, exactement.
Un petit moment de repos.
Ouais, oui. D'ailleurs, c'est les jours où j'ai le plus de monde.
Ben, j'en doute, ouais.
Donc, voilà. Lundi, pas trop, mais vendredi, samedi, j'ai du monde qui vient, qui m'appelle. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que je peux passer? Donc voilà.
Ouais, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. C'est vraiment
merci
chouette de vous
aussi,
découvrir
tiens.
Ici. Et puis, j'encourage tout le monde, que vous tricotiez ou pas, à passer au salon de thé. Vous allez être tentés. C'est magnifique ici.
Merci beaucoup, Diane. Et merci pour ta visite.
Ça me fait plaisir.
Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten? Posez-la. Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode foire aux questions pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten? Parlons-en. Dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger les réponses et les solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien.